Nostalgie, entre les notes. Julien Clerc.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Alors, on commence souvent les interviews par une présentation de l'artiste. Donc moi, ces derniers temps, j'en ai vu beaucoup des présentations de Julien Clerc. Je suis allé en voir. Et il y a un mot qui a attiré mon attention. Alors forcément, on vous présente comme un chanteur. Et il y a le mot mélodiste. Et ça a attiré mon attention. Pourquoi mélodiste et pas compositeur? Est-ce que c'est un lapsus parce que vous mettez la mélodie au centre? Ou alors c'est une sorte de pudeur face au mot compositeur?
Non, pas du tout. C'est pas du tout de la pudeur. Parce que c'est la vérité vraie. Je suis pas un très bon instrumentiste, par exemple. Je suis pas un très bon pianiste. Je suis véritablement... Le piano me sert à inventer des mélodies.
D'accord.
Et pour aller encore plus loin, mais je ne sais pas si c'est pas un peu rébarbatif pour les gens, mais c'est pourtant la façon dont je travaille. Quand j'invente une chanson, une mélodie, donc, je fais quelques accords. Je sais que tout le monde ne sait pas ce que c'est que des accords, mais on va dire que je place mes doigts sur le piano et puis boum, bing, boum, ça fait comme ça. Et là-dessus, j'invente une mélodie. Et souvent, j'invente le début de la mélodie sur les accords que j'ai trouvés, mais après, c'est la mélodie qui décide. C'est-à-dire que je ne sais pas où elle va m'emmener, mais je suis la mélodie et j'adapte les accords que je fais en accompagnement à la mélodie, en fait. Donc, je suis véritablement un mélodiste. C'est-à-dire que c'est la mélodie qui m'importe. Oui. Et les accords, ils suivent le mouvement, si vous voulez. C'est très difficile de parler de musique, en fait. Voilà, les auteurs, ils ont moins de mal à te parler de leur travail. Mais nous, c'est difficile de parler de musique. En tout cas, je me revendique, au contraire, véritablement comme un mélodiste.
D'accord. Moi, j'étais venu avec l'idée de vous accuser d'être compositeur avec une pièce à conviction. C'est le morceau « Pièce bleue » sur l'album « Jaloux ». Pièce bleue qui est un instrumental. Du coup,
ouais,
un instrumental qui est un ovni dans la carrière. Alors moi, j'ai écouté ça hier, tranquillement, le soir, avec une belle vue sur Paris. C'était incroyable, il y avait une belle ambiance. Ça venait d'où, cette idée d'instrumental, du coup?
Je sais pas.
Ça s'est venu comme ça
peut-être. On sait pas, vous savez, d'abord, je m'en souviens plus très bien, mais en plus, peut-être bien que c'était un début de chanson dont je me suis rendu compte que ça serait jamais une chanson, alors que je l'ai transformée en instrumental. Encore une fois, je reparle de Jean-Claude Petit à ce moment-là parce que il y a dans ce morceau, de façon un peu maladroite, je trouve, mais on y sent mais certaines influences un peu jazz. Moi, j'ai énormément écouté de jazz à une époque. J'aimais beaucoup les ballades et les pianistes, évidemment les grands pianistes de jazz, les ballades de certains grands pianistes de jazz moderne comme ça. C'était ça qui traînait vraisemblablement dans ma tête quand j'ai fait cette musique-là. C'est pas très... Je le répète, c'est un peu maladroit, ça n'est en aucun cas du jazz, mais on sent que j'ai écouté du jazz quand on écoute ça.
Voilà. Oui, moi ça m'a évoqué un peu l'été 42, Michel Legrand, oui, ça fait la réverbe sur les violons comme ça, c'est magnifique. Alors ça va amener à parler des paroles, je sais que vous adorez Brassens.
Énormément Brassens, qui était l'idole de ma mère, je l'ai donc entendu très très jeune. Et ce qui m'a touché chez lui, eh bien c'est sa musique plutôt que ses paroles. D'abord
oui.
Parce que je n'étais pas en âge de comprendre ses paroles. Pas toutes,
tant mieux,
alors que les mélodies m'ont touché dès mon oreille de petit garçon.
C'est vrai que Brassens, je veux dire, on écoute, je me suis fait tout petit, par exemple, cette mélodie, il fallait la sortir quand même, c'est pas n'importe qui. C'est un vrai instrumentiste, même à la guitare, même s'il s'en défendait. Effectivement, et Brassens, on a vu une interview récemment, où j'ai vu qu'il commençait par les paroles et après il écrivait la musique. Est-ce que vous c'est votre cas? Parce que on entend différents sons de cloche. Par exemple, il y a ce qui est devenu presque un mythe de vous, donc qui est arrivé dans le bar, qui veut faire une chanson, ça fait presque saloon quoi.
Ouais,
ça fait un peu ce côté-là, les portes double battant.
C'était la vérité.
Qu'est-ce qui vient en premier? C'est le texte ou la musique?
J'essaie d'avoir les deux dans un album. J'essaie d'avoir des chansons avec le texte écrit d'abord. Et des chansons avec la musique écrite d'abord. Et parce que je trouve ça fait des chansons un petit peu différentes. Souvent, quand je commence un album, je fais appel à des textes. C'est-à-dire, j'appelle les auteurs et je leur dis « Envoie-moi un texte ». Comme ça, moi, ça va me lancer. La période de composition d'un album, qui se situe sur plusieurs mois, il faut du travail, il faut y aller à son clavier, puis essayer de trouver des choses. Bon, la moitié des chansons, on va dire, je sais pas, j'ai pas très bien calculé là sur ce nouvel album, mais généralement, ça se situe à 50-50. 50% de chansons qui sont des textes que je mets en musique, 50% de chansons qui sont des mélodies que j'envoie aux auteurs.
Est-ce que quand c'est le texte en premier, est-ce que ça crée pas une situation paradoxale? Je m'explique. C'est-à-dire que pour le grand public, d'un point de vue extérieur, on se dit, bon, ben, les paroliers, sont au service de Julien Clerc, de son œuvre, etc. Mais finalement, dans la réalité des choses, quand on reçoit les paroles d'un parolier, qu'on lui fait une musique, quand bien même c'est pour notre carrière, est-ce qu'on n'a pas le sentiment, nous, de plus faire quelque chose pour lui et presque d'avoir un peu peur, lui montrer la musique en disant, mince, j'espère que ça va lui plaire.
Oui, non, mais c'est très juste de dire ça. C'est ce que je leur dis d'ailleurs toujours. Il y a une espèce de règle du jeu non écrite, mais qui est que, un, je peux refuser le texte parce qu'il ne me convient pas, et deux aussi, si vous n'êtes pas content, il faut me dire ce qui ne va pas, je me remettrai au travail. Moi, je vous demande de vous remettre au travail, mais vous pouvez me demander de me remettre au travail, bien sûr.
On se tourne vers des paroliers pour des raisons artistiques, mais est-ce qu'il faut aussi une entente particulière, ne serait-ce que pour être capable d'incarner en tant qu'interprète après correctement ce qu'a voulu dire...
Oui, je comprends très bien ce que vous dites, mais non, il n'y a pas besoin d'être ami pour faire des bonnes chansons, si c'est ça que vous me demandez.
Oui.
Mais ce qui fait, c'est que souvent la vie fait que, à force de travailler ensemble, on devient ami. Voilà. C'est dans ce sens-là. Mais quand on devient ami, c'est dangereux aussi. Parce que le jour où on n'est plus satisfait, où on n'a plus envie de chanter les paroles de son ami, là, ça devient blessant. Et malheureusement, j'ai été parfois confronté à ça. Et il arrive à un moment donné où je ne fais plus appel aux paroles de mon ami. Et c'est douloureux.
Pire qu'une rupture avec une femme. Quoi. Ouais. Il y a un peu ce côté-là. Et est-ce que le fait de faire appel à des paroliers et pas écrire soi-même ses paroles, ça permet aussi d'en avoir moins marre de ses titres? Parce que finalement, avoir dans son œuvre, dans ce qu'on va chanter tous les jours et peut-être pendant vraiment des années, quelque chose qui ne nous appartient pas, ça permet de conserver un émerveillement.
Non, mais je les prends. Ça ne m'appartient pas au début, mais après, ça a été écrit pour moi quand même. Et à partir du moment où je l'ai accepté, que je leur ai demandé si j'en avais besoin de faire quelques rectifications, à partir du moment où je me suis investi à le prendre, ça devient ma chanson. Et il n'y a plus aucune différence entre le texte que j'ai pris et que j'ai mis en musique ou la chanson où j'ai envoyé la mélodie, on m'a renvoyé un texte. Après, ça devient mes chansons parce que je tourne suffisamment longuement autour. Une fois que je les ai adoptés, c'est à moi.
Oui, je vois, effectivement. Est-ce qu'il y a des textes qu'on finit par... Vous avez commencé très jeune.
Oui, très jeune.
Est-ce qu'il y a des textes qu'on finit par mieux comprendre avec le temps, avec l'expérience? Ça modifie peut-être l'interprétation. Est-ce qu'il y a des chansons, comme ça, vous avez des exemples, derrière lesquelles vous mettez peut-être une plus grande gravité ou alors même une plus grande légèreté derrière?
Alors, d'abord, la réponse est oui, évidemment. Les chansons qui sont des chansons... Par exemple, « Femme, je vous aime », c'est typique. J'ai évolué dans ma façon de la chanter, de ressentir en la chantant. Au début, je la chantais de façon un peu timide et un peu... J'y allais à fond. Oui. Mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu. J'étais pas habitué à ça. C'était le début de la collaboration avec Dabadi, qui me faisait dire comme ça au monde entier, « Femme, je vous aime ». Il y avait un côté là-dedans qui me gênait un peu, qui ne me correspondait pas. Il a fallu d'ailleurs qu'il fasse une mise au point. Jean-Louis m'a dit, « Tu sais, sache que si, par exemple, Johnny Hallyday ou Michel Sardou m'avaient demandé une chanson sur les femmes, je n'aurais pas écrit ça. J'ai écrit ça pour toi, pour nous, disait-il, parce que c'est vrai qu'on avait, on était balance tous les deux et on avait une sensibilité commune, on va dire, vis-à-vis des femmes. Et il m'a dit, sache-le bien, j'ai écrit ça pour toi, c'est une chanson qui est pour toi. Et je me souviens de lui me disant ça. Et après, au fur et à mesure que le temps est passé, que la chanson a eu du succès, que je savais qu'elle était chantée dans les karaokés, etc., j'ai pris, moi, une espèce d'assurance et surtout de tranquillité. Et j'ai mieux compris ce qu'il avait écrit qu'à l'époque où je l'ai chanté au début. Aujourd'hui, je la chante avec un réel plaisir. J'imagine tout le temps Jean-Loup l'écrivant, je ne sais pas pourquoi.
Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile.
Pareil pour ma préférence. Ça me fait penser aux auteurs. Vous savez, d'avoir été difficile dès le début, quand j'étais jeune, sur les textes, d'avoir commencé avec Rodagil, qui avait mis la barre très haut, et qui a fait qu'après, tous les auteurs qui sont venus, ils ont fait attention à ce qu'ils écrivaient. Tout ça parce que Étienne avait mis la barre si haut au début. Je vous assure que je ne suis jamais fatigué de chanter une chanson. Et que des fois, je me dis, merde, qu'est-ce qu'il a bien travaillé ce jour-là, oh merci de m'avoir écrit ça. Voilà, ça je suis rejoint, dans cet état d'esprit là.
Ça rejoint ce que vous disiez sur le fait on devient plus amis en collaborant que ce que c'était à la base. C'est, j'imagine que c'est un bon exemple de ça. Pour revenir sur le lien entre tout simplement le texte et la musique, il y a un lien que je fais assez rapidement en écoutant du Julien Clerc avec Gilbert Bécaud, c'est le multiculturalisme de la musique. Quand on est musicien, on est jamaïcain, c'est le cœur vous en dit. Et c'est vrai que moi, quand j'écoute du Julien Clerc, alors il y a, excusez-moi la prononciation, sertao, c'est une flûte traversière, bossa nova du Brésil. Oui. Jouer violon sur des crécelles, c'est une valse lente. Moi, ça m'évoque un petit peu Mourir de jeunesse de Robert Charlebois.
Ouais.
Valse un petit peu épique et lente comme ça. Londonderry, c'est du jazz. Les boucles de Garonne, un rythme un peu du Moyen-Âge presque, avec référence à Carcassonne. Est-ce que ce multiculturalisme, c'est un jeu avec le texte comme Gilbert Bécaud avec Nathalie, ou Charlie tira pas au paradis.
Oui.
Gospel.
Mais d'abord, on est le même genre d'artiste, c'est-à-dire qu'on est des compositeurs-interprètes. On dépend énormément de nos auteurs. Et il y en a un autre, et je crois qu'ils sont pas très nombreux dans la chanson du monde, et Dieu sait qu'il est connu mondialement, c'est Elton John. Elton John, il est, comme Bécaud et moi, un compositeur-interprète, sauf que lui, il a gardé leur travail commun avec Bernie Taupin, qui écrit des textes, a duré extrêmement longtemps. C'est incroyable qu'ils arrivent à avoir encore de... Je suppose que Bernie Taupin écrit toujours pour Elton, je pense. Bon. Donc là, c'est pas pareil que quand on est auteur soi-même, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on dépend de nos auteurs. Donc la qualité du travail de nos auteurs est très importante. Et les sujets qu'ils choisissent de nous faire chanter sont très importants aussi. Mais moi, je me réjouis aujourd'hui, ça me faisait râler au début, mais je me réjouis aujourd'hui de n'avoir été que compositeur. Et je pense que si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que je n'étais que compositeur.
Oui,
d'avoir rencontré des auteurs de générations différentes, maintenant, bien obligé de le dire, et qui m'ont fait aborder plein de sujets différents. Et ça n'aurait peut-être pas été le cas si j'avais travaillé avec un seul auteur.
Quand il y en a un qui va évoquer un pays, je prends le Brésil dans Sertao, c'est une sorte de clin d'œil, d'hommage même à ce qu'il a fait, de respect pour ce qu'il a fait, d'y mettre une instrumentation adaptée. Ou est-ce que c'est des influences que vous avez en tant que personne qui avait 21 ans, 66, dans la période Sgt Pepper, etc.
Oui, beaucoup.
C'est toute ouverture musicale sur le monde.
Ouais.
Donc en fait, c'est pas juste une référence au texte, mais vraiment une envie de faire des musiques un peu de partout.
Ouais, mais vous avez raison de citer les Beatles, qui est évidemment un phare pour nous. Quand je dis nous, je dis notre génération, mais pour moi en particulier. Pendant quelques années, le temps des Beatles, toutes les autres musiques que j'écoutais avant avaient disparu. Après, elles sont revenues. Mais c'est incroyable, sous les Beatles, comme pendant les Beatles, j'ai envie de dire sous les Beatles, comme on dit d'un roi.
Ça règne, c'est exactement ça.
Ouais. La façon dont ils ont abordé la musique, vraiment, ce qu'ils ont osé dans leur production, on a eu à un moment donné une impression que tout ce qu'on faisait, les Beatles l'avaient fait avant nous. Et c'est un peu vrai.
C'est encore le cas aujourd'hui.
Et c'est encore le cas aujourd'hui.
Les groupes ont du mal à s'en démarquer.
Évidemment. Évidemment. Dans la pop anglaise, les Beatles en tête. Je dis la pop anglaise parce que je me réfère à un concert qui m'a marqué à vie. J'ai eu la chance de les voir. Je les ai vus au Palais des Sports, non pas à l'Olympia, l'histoire qu'on raconte toujours avec Sylvie Vartan, etc. Je les ai vus au Palais des Sports dans un spectacle d'un dimanche après-midi où en première partie, il y avait toute la pop anglaise. Il y avait les Yardbirds, il y avait les Animals, etc. Entr'acte, puis les Beatles. Et d'avoir vu ce concert, c'était extraordinaire quand on avait mon âge, parce que c'était tellement inspirant.
Les Beatles, genre Sgt Pepper, moi, c'est un de mes albums préférés.
Évidemment.
J'ai 25 ans et ça reste encore pour toute une génération. Sgt Pepper, c'est l'album, on dit que la première fois qu'on a eu de la pop ouverte sur le monde. Et c'est vrai que des fois, j'ai eu le sentiment que ça faisait oublier des gens comme Gilbert Bécaud ou la France aussi, qui dans sa tradition a très souvent aussi intégrer d'autres cultures musicales.
Ouais.
Voilà, même si, à raison, les Beatles sur un paper, c'est un chef-d'œuvre, et effectivement, ça a influencé plein de monde. Je trouvais qu'il y avait cette petite injustice-là sur le fait que c'était pas forcément les premiers à intégrer des musiques du monde.
Non, c'est vrai.
Dans leur musique.
Bien sûr. Mais ils l'ont fait à la façon anglaise de l'époque, si vous voulez. Donc ça compte aussi énormément. Vous savez, il y a une fameuse interview, c'est très important à savoir. Et puis, il faut regarder le film, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Les Titi Bion, on les voit travailler
studio.
Oui.
Là, c'est Get Back qui est sorti.
Voilà, on voit bien comme ça comment ils travaillent en studio.
C'est
très intéressant.
Oui.
Bon. Mais il y a un autre truc à regarder des Beatles qui... ça prenait à peu près 4 DVD, je pense. ils sont interviewés sur toute leur carrière. L'anthologie, c'est génial, ça. Hein, bon. Eh bien, oui, quand ils avaient 16 ans, ils traversaient Liverpool en bus parce qu'ils savaient qu'il y avait un mec à l'autre bout de la ville qui connaissait un accord qu'eux ne connaissaient pas.
Oui, c'est touchant.
Ça, c'est génial. Ça, hein. Bon. Donc, ça, c'est aussi cette façon de découvrir la musique de gens qu'avaient à l'époque des groupes anglais en particulier, qui n'étaient pas forcément des bons musiciens qui le sont devenus. Sauf qu'ils ont vraiment pris ça avec une espèce d'ouverture d'esprit très grande. Ils n'étaient pas des grands spécialistes, ils n'étaient pas des grands instrumentistes, mais ils étaient des génies cependant. Et donc ils avaient leur oreille qui était là.
Et George Harrison, quand on sait comment il a appris le sitar, ça m'avait fait rire. Je me suis dit, ah oui, c'est ça qui a déclenché tout ça. C'est une scène du film Help, où ils sont dans un restaurant indien. Un gars avec la sitar, et on regarde la scène aujourd'hui, c'est ça qui lui a donné envie de faire la sitar. C'est vrai qu'il allait voir après. Et ensuite, bon, il y a eu Ravi Shankar, etc. Mais on se dit, c'est fou que. Voilà, c'est exactement ça, cette ouverture d'esprit, parce que finalement, quand on ne sait pas, on peut être ouvert sur tout. C'est ça qui.
Oui, il faut être influencé par beaucoup de musique. Il faut. C'est... Moi, je remercie pas mes parents d'avoir divorcé, mais je veux dire, en tout cas, le fait qu'ils aient divorcé, le fait que j'ai vécu dans deux foyers, où il y avait deux femmes différentes qui n'aimaient pas les mêmes musiques, parce que c'est grâce à ma mère et ma belle-mère, finalement, peut-être bien, que je fais ce métier aujourd'hui. C'est parce que elles adoraient la musique toutes les deux, mais des musiques différentes. Donc j'ai baigné dans la musique très tôt, mais ça n'était pas la même musique, mais ça m'a donné immédiatement une largeur de vue, si vous voulez, et c'est ça qui a fait que je suis devenu musicien, je pense.
Je pense là aussi une partie de ce qui explique votre succès, parce que quand on regarde la liste des tubes, ils se ressemblent pas tous. Je veux dire, ma préférence, c'est une grille d'accords qui est étonnante. Il y a des instruments. Il y en a un, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Est-ce qu'il y a un orgue de Barbarie dans ma préférence? C'est quelque chose qui me fait penser.
Il y a un mélange de cordes. Il y a un mélange de cordes et de synthétiseurs. Ça commençait quand même les synthétiseurs à l'époque, et je pense que les contre-champs, là derrière, où on entend des sons de bois, je ne sais plus très bien, mais je pense que ça mélange aussi des vrais instruments et des synthétiseurs. Des Moog en particulier. Moog, il y avait le Moog à l'époque, dont se servaient beaucoup les Beatles. Hein. Je crois que c'est ça.
Et qu'est-ce qui aujourd'hui vous inspire en tant que, parce que vous êtes, voilà, en tant que, alors, mélodiste, du coup, qu'est-ce que vous écoutez? Par exemple, vous avez cité récemment que vous adoriez Miyazaki. C'est un univers visuel, c'est aussi un univers musical. C'est un peu les nouveaux tubes de la musique classique. Quand Hisashi est venu à Paris il y a quelques années, je voyais sur TikTok tous les jeunes qui se prenaient en selfie au concert.
Ouais.
C'était une rockstar. Et c'était marrant de voir cette ambiance-là. En voyant une scène avec un orchestre symphonique, et ça vous inspire aussi?
Oui, toujours, tout ce que j'écoute, ça m'inspire. J'ai gardé le même état d'esprit que quand j'avais 20 ans j'ai toujours fait du à la manière d'eux. C'est pas du vrai rock'n'roll. Lily voulait danser, je sais très très bien. D'abord, je saurais pas faire du vrai rock'n'roll, mais c'est toujours c'est dû à la manière d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toutes les musiques que j'ai entendues. Si je peux glisser un petit clin d'œil à la bossa nova, parce que ça ira avec les paroles, je le fais. Mais c'est toutes ces musiques. Je pense qu'il faut pas avoir d'œillères quand on fait de la musique. Y a rien de pire que les spécialistes, je trouve. Il y a un très très grand violoniste qui s'appelait Yehudi Menuhin, qui est un très très grand violoniste classique, et qui disait, je vais essayer de vous dire la bonne phrase, à peu près il disait ça, hein. J'aime la musique populaire et néanmoins savante, et j'aime aussi la musique savante et néanmoins populaire.
C'est une belle phrase, et c'est vrai que c'est bien de pas ce que... Vous avez déjà entendu dire pour ma préférence, l'idée que on dirait que c'est facile, c'est ça qui fait que c'est bien, et en vérité, les fondations sont compliquées derrière.
Oui, c'était Billy Joel qui avait dit à un ami à moi qui était journaliste, Sacha Rince. Sacha Rince l'interviewait, il lui avait montré la grille des accords de ma préférence, et Billy Joel avait dit, mais il est fou, le mec qui a écrit ça.
Alors, Billy Joel, c'est marrant que vous en parliez, moi, j'écoute que ça en ce moment, et pour lui, c'est vraiment un travail d'artisan. Il a toujours expliqué que les chansons lui venaient pas comme ça. C'est un peu l'inverse du mythe qu'on a pour Bob Dylan, par exemple, qui a même encore été renforcé par le film. On dirait que ça lui vient comme ça. Ouais. Et vous considérez dans cette catégorie-là d'artisan, vous voyez un côté mystique à la musique?
Non, mais enfin, il est vrai que moi qui ne suis pas religieux, je crois quand même qu'il y a une forme de visitation. Parce que quand une mélodie jaillit, après qu'on ait tourné autour, qu'on ait cherché, moi c'est sur mon clavier, mais il y en a d'autres, c'est avec la guitare, mais tout d'un coup, la mélodie jaillit, ça reste parfaitement inexplicable. est tout à fait magique. Donc il y a quelque chose là-dedans de la visitation malgré tout. Ça, j'en suis sûr. Mais sinon, oui, c'est un travail évidemment artisanal. C'est-à-dire que on remet quand même mille fois, comme je sais pas comment on dit la phrase, là, mille fois remettre l'ouvrage sur le métier. C'est aussi ça, c'est-à-dire que la chanson jaillit, mais alors après, je retravaille des semaines et des semaines dessus. Et d'ailleurs, voilà, dans la vie, en cuisinant, en me baladant, le truc que j'ai trouvé, je continue de le maturer en le chantonnant dans ma tête.
Voilà. Une mélodie peut venir sans clavier, sans...
Oui, ça peut, j'en ai au moins deux comme ça. Hein. Deux, étrangement d'ailleurs, deux chansons écrites avec David McNeil. Mais le Mélissa est venu comme ça. Hein. C'est vraiment venu en... C'est venu tout seul comme ça. Et la chanson Hélène aussi est venue toute seule comme ça, sans piano. Oui.
Alors Mélissa, même les arrangements en général, je vous ai entendu assez péremptoire sur le fait de ne pas vouloir s'éloigner de l'arrangement original. Pourtant, alors j'ai regardé un live de 2005, la version de Mélissa, je l'ai trouvée super, et petite personnelle, bien modernisée avec le ukulélé, le piano bass string un petit peu.
Ouais, mais bon.
Vous a moins plu ?
Ça m'a moins plu. Quand je réécoute, je me dis, bon, je veux dire, c'est bien de vouloir changer, mais non. C'est vrai que quand je la fais tout seul, ou quand je suis seul au piano, ça m'arrive. Je suis obligé de la faire différemment. Et une chanson doit toujours pouvoir la faire différemment. Mais quand même, l'arrangement et la production, c'est quand même ça qui fait le son de la chanson. Je trouve que c'était un producteur anglais hein, à l'époque. Bon, ça se sent d'ailleurs, je trouve, que ça a été fait par un anglais. Et à chaque fois, je reviens malgré tout à la version originale. Je trouve que c'est ça qui fait... Voilà.
On a parlé de son et justement, vous, je pense que vous êtes dans une génération qui est quand même unique dans le sens où les technologies ont évolué si vite que c'est impressionnant d'avoir un monde si différent entre ses 20 et ses 80 ans. Je pense que c'est quand même fou. Et bon, je pense qu'on doit en profiter en termes d'enregistrement, etc. Bien. Mais aussi, il y a des choses qui doivent sembler absurdes. Par exemple, le vinyle, c'est à la mode. C'est un bel objet, etc. Vous avez vécu aussi les contraintes du vinyle.
À chaque fois qu'on me dit ça, je dis, c'est bien joli. Si je m'en réfère à l'époque, les disques classiques, oui, ils sonnaient super bien. Mais nos disques à nous de variété, appelons-la la musique de variété, ça avait rien à voir avec le son de la musique classique dans les vinyles ou des imports. Parce que, si je me souviens bien, les disques en vinyle des imports qui arrivaient d'Angleterre ou des États-Unis, ils étaient parfaitement soignés. Mais enfin, moi, je veux dire, il m'est arrivé de pleurer après, entre ce qu'on entendait en studio et après ce qu'on entendait sur le vinyle, avec les compressions qu'il mettait et les trucs. C'était épouvantable. D'ailleurs, moi j'étais allé à l'usine de Pathé, puisque j'étais chez Pathé Marconi à l'époque. Je me souviens de ce monsieur en blouse blanche d'ailleurs, qui m'expliquait doctement ce qu'il avait fait de nos bandes. Il m'a dit, vous voyez là, par exemple, là je mets un petit coup de compression. Alors, je n'ai rien, j'avais entendu ça, mais c'était plus du tout le son qu'on avait en studio. Non, moi j'ai beaucoup souffert. Et franchement, quand le CD est arrivé, j'étais content.
Oui, surtout.
Honnêtement.
Il y a eu les versions remasterisées de l'époque qui ont peut-être mieux rendu honneur aussi pour vous.
Ouais.
Et la scène, est-ce que c'était un moyen aussi du coup de prendre sa revanche sur ça? Parce que là, le son, pour le coup, il était.
En scène aussi, la technologie a terriblement évolué. Vous savez que les Beatles, ils ont dû arrêter la scène parce qu'il y en avait pour deux raisons, à mon sens. Il suffit de regarder les films. La première, c'est qu'ils ne s'entendaient pas. Moi, le souvenir que j'ai du concert des Beatles au Palais des Sports, c'est que je n'ai pas entendu une note.
Parce que
les filles hurlaient de la première à la dernière note. Bah ouais, et je me souviens avoir réécouté le concert à la radio dans une émission à l'époque sur Europe 1 qui s'appelait Musicorama, où ils enregistraient. Et là, j'ai beaucoup mieux entendu ce qu'ils ont fait lors du concert. Ou quand on voit les images du Shea Stadium, où il y a 80 000 personnes qui hurlent. Et ils avaient à leur disposition beaucoup moins de matériel que nous avons aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils ont arrêté, un, pour ça, et deux, parce que tout d'un coup, les enregistrements sont devenus plus compliqués et il n'y avait plus les simples quatre instruments qu'il y avait au départ. Bon. Mais aujourd'hui, on a à notre disposition un matériel extraordinaire qu'on n'avait pas à l'époque, quand même. Hein. Moi, je me souviens de Beko me disant qu'à ses débuts, dans ses premières tournées, il avait le piano. Vous savez que nous, on se déplace avec notre matériel, on se déplace avec nos instruments, notre système de son, tout. Bon, à l'époque, non. quand ils passaient dans un cinéma à Limoges, ils avaient le système de son de la salle et le piano de la salle.
Barbara a déjà refusé de jouer sur des pianos. Voilà.
Beko me dit, moi, je le cassais systématiquement. Comme ça, je savais que la fois d'après où je reviendrais, il y aura un piano neuf.
Par rapport à cette histoire de son, de toute façon, Beko, l'image qu'on en a, c'est la main sur l'oreille pour s'entendre.
Évidemment,
pour s'entendre. Voilà, ça montre bien qu'à l'époque, c'était plutôt avec l'hystérie qui déclenchait qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a un matériel exceptionnel qui ressemble au matériel du studio et qui fait quand même, ça nous permet de faire des choses sur scène qu'on ne pouvait pas avant.
Et pour même créer, est-ce que ça vous. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son petit home studio. Je veux dire, j'ai vu un reportage sur les Who et Pete, alors j'aurais jamais prononcé son nom de famille.
Townsend.
Merci. il est connu pour avoir été un des premiers à avoir son home studio.
Oui.
Aujourd'hui, ça semble fou. Est-ce que c'est pratique d'avoir son home studio chez soi? Est-ce que ça a changé votre façon de composer, technologie?
Du tout. Ça, non, parce que moi, j'ai pas. Parce que j'aime assez, à l'ancienne, aller au studio.
Oui,
quand arrive le moment d'aller au studio, je suis heureux de cette démarche-là. Je vais découvrir mes chansons. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai un clavier électrique qui me permet de travailler au casque, donc de ne pas casser les oreilles de mon entourage, parce que franchement, les périodes de composition, ça peut être pénible pour l'entourage. Hein. Donc, je travaille au casque. Et surtout, les sons que j'ai à ma disposition, mais des sons de clavier, je ne me sers même... C'est-à-dire que j'ai un piano Yamaha, pour ne pas le citer, dont je me sers à peu près de 10% des possibilités. Je ne prends que les sons des claviers, en fait, qui éventuellement peuvent m'aider à jouer. C'est toujours pareil, n'étant pas un très bon pianiste. Les sons que m'offre ce clavier m'aident à imaginer des choses au moment où je compose. Mais je compose toujours de la même façon, comme j'ai toujours fait. Et c'est en studio que je commence à découvrir l'habillage, si on peut dire, sonore de mes chansons.
Pour conclure, est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut faire du moderne avec du mélange d'anciens et que c'est ces nouvelles combinaisons qui font du moderne?
Il faut faire comme, on peut tout à fait dire ça, il faut faire comme disait Lagerfeld pour la mode, il faut faire du neuf avec de l'ancien.
Et bien on va rester avec cette belle phrase. Merci beaucoup Julien Clerc.
Merci.
Nostalgie entre les notes.